Je vous salue chacun et chacune. C'est encore le temps un peu de l'été. Il y a des visiteurs, des têtes. Salut. Alors des fois, dimanche dernier, il y avait une famille. Je croyais que c'était des visiteurs. Ils me disent non, on est déjà venu 2-3 fois. Et puis ils viennent là avec leurs enfants. Alors plus une famille, la maman est éthiopienne. Alors ça fait une nationalité de plus. Ça va venir renforcer. Maîtresse qui est là parmi nous. Donc, je pense qu'on va bientôt atteindre la trentaine de nationalités dans l'Église et on se réjouit de cela. Alors, salut à chacun. Vous avez déjà, je le sais, passé un bon temps. Et franchement, ce matin, c'était vraiment un culte d'adoration. Vraiment un culte d'adoration. Et voyez-vous, ce matin, eh bien, je crois qu'on va continuer. Je ne savais pas trop, j'avais un petit plan parce que je sais que je dois apporter le message quelques dimanches là. Et puis hier matin, j'ai lu le psaume 139, un psaume que vous connaissez bien. Et puis j'avais en même temps ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Je n'avais pas le programme, mais adorons, adorons l'agneau. Et puis je ne sais pas, je me suis dit, ben, je vais parler sur le psaume 139. Et très simplement ce matin, je voudrais le lire avec vous puis méditer ce psaume. Je crois que c'est. Il y a des choses qui vont nous parler sur l'adoration. Je ne suis pas un spécialiste, un enseignant sur ce sujet, mais ça m'a vraiment touché. Alors, je vous invite simplement, on va le lire déjà, le psaume 139. Beaucoup le connaissent bien, surtout un passage au milieu là. Psaume 139, c'est un psaume de David, hein, bon, beaucoup de psaumes de David. David, je crois que David nous enseigne sur l'adoration. Hein, l'homme selon le cœur de Dieu. Je me plais à souligner souvent que quand on regarde la vie de David, on se demande bien pourquoi, humainement, pourquoi c'est un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'au niveau des péchés, il s'en est occupé aussi. Mais c'est son cœur, profondeur, toujours il revient à Dieu. Il reconnaît les choses. Et je crois que c'est ça, l'adoration. Psaume 139, au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Est-ce qu'on arrive à dire ça de temps en temps, dire Seigneur, ça me dépasse. Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, grandioses, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Écoutez bien. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, Puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur les voies de l'éternité. Simplement, ce matin, je voudrais qu'on va reprendre un peu ce psaume, comme il se présente. Il y a un parcours de David dans ce psaume. Il n'a pas fait un plan avant de dire ce psaume. L'Esprit de Dieu le saisit et ça jaillit de son cœur. Mais Dieu est un Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre. Et il y a un plan. L'Esprit va conduire David à travers un peu quatre temps. Et il va le ramener au début, mais cette fois-ci dans la supplication. Au début, il est dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. David déclare cela comme un fait. Il sait, il a expérimenté, il a fait bien des expériences avec Dieu. Et vous voyez le texte qu'on a lu, il dit, tu es grand, tu as tout fait, c'est extraordinaire. Il y aurait d'autres psaumes sur la création qui me bouleversent. Et voilà, David dit, c'est un fait, Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Mais si on regarde bien à la fin de ce psaume, c'est plus un fait qu'il énonce. Il demande à Dieu, après le parcours qu'on va détailler, il demande à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est-à-dire, à travers tout ce qu'il a vécu dans ce parcours d'adoration, il dit, Seigneur, vraiment, j'ai encore besoin. Je ne peux pas me connaître moi-même. Je ne peux pas me diriger moi-même. Fais-le. Il termine finalement par, comme une supplication, une prière ardente. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Peut-être nous arrive-t-il de douter alors que nous connaissons la parole, alors que nous avons, comme nous le disait Jean-François, l'assurance de notre salut. Puis par moments, on flotte. C'est arrivé à David. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ça veut dire que peut-être je suis sur une mauvaise voie. Et je reconnais. Et conduis-moi, toi, ô Dieu, sur la voie de l'éternité. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il y a une confession là que nous ne saisissons pas tout, loin de là. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais un jour, nous le verrons face à face et nous connaîtrons comme nous avons été aimés. Alors il y a quatre parties, si vous regardez bien ce texte. Il y a 24 versets et il y a 4 fois 6 versets ceux qui traitent de thèmes. Je vais aller assez rapidement, mais les 6 premiers versets nous parlent finalement de l'omniscience de Dieu, Dieu au-dessus de tout. Puis les versets 7 à 12, c'est son omniprésence. Et puis les versets 13 à 18 que l'on connaît très bien, hein, c'est toi qui as formé mes reins, on s'en sert beaucoup. C'est des versets merveilleux, c'est vraiment des versets de louange, d'adoration, de reconnaissance à Dieu, à la fois que nous sommes ses créatures, et que donc il est le créateur, et que donc on n'est pas tout à fait à la même place, même si par Jésus il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, il est Dieu, nous sommes des créatures. Frères et sœurs, c'est des choses qui paraissent simples, mais il y a une profonde consolation, une profonde paix pour nos vies lorsque nous sommes resitués à nos places. Lui, Dieu, le Créateur, le Tout, celui qui sait tout, qui est présent partout, qui est donc omniscient, omniprésent et donc omnipotent. On sait bien qu'aujourd'hui, celui qui sait, celui qui a la connaissance, celui qui maîtrise et qui contrôle, il a tout pouvoir. humainement. Il y en a un qui est au-dessus, c'est Dieu. Parce qu'il sait tout. D'accord? Et quand on est resitué, c'est très simple ce que je vous dis ce matin. Mais je pense qu'on en a besoin. Parce que des fois, on se complique bien la vie. Et puis, il y a cette quatrième partie, comme un changement de ton, et on y reviendra. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Alors ça, humainement, c'est pas possible, ça, cette histoire-là. Alors bon, on va expliquer, on est dans l'ancienne alliance, etc., etc., la signification spirituelle. Toutefois, des choses sont dites qui sont fortes là. Je hais mes ennemis d'une parfaite haine. Il s'agira simplement de bien définir les ennemis. Les versets 1 à 6, Dieu omniscient. Vous noterez que dans ce psaume, Dieu ne parle pas. Enfin, en tout cas, il n'est pas dit « l'Éternel répond » ou « non ». Et pourtant, il parle. Au fur et à mesure que David, j'allais dire l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, ouvre sa bouche. Et ça nous parle de la confession de nos bouches. Quand nous sommes seuls, il est seul, là, je pense, David. Est-ce qu'on confesse de nos bouches ce que l'on a à dire à Dieu ? À voix haute. Je dis souvent, moi, dans des moments de détresse, je dis « Seigneur, mais je suis ton enfant !» On a le droit, figurez-vous, de lui dire cela. De lui rappeler. Ça, ce n'est pas une insulte. Dieu parle à Dieu, il confesse toutes ces choses. Tu sais tout, quand je me lève, quand je marche. Ça ne vous rassure pas, ça ? De savoir que c'est un Dieu dont on dit après qu'il nous aime, qu'il nous a créés, qui sait toutes choses de nous, pas pour nous contrôler, j'y reviendrai. Moi, ça m'amène de la paix, au milieu de tout. C'est une invitation pour nous à faire la même chose. Nous sommes connus de Dieu, de notre Créateur. J'étais touché hier par ce spectacle, c'est vrai, qui annonçait clairement l'Évangile. Mais en commençant par le début, et c'était encore une fois un spectacle pour des enfants, combien ils ont besoin de savoir qu'il y a un Créateur. Ils ne le voient pas. Mais Dieu a mis dans la pensée des enfants, comme de nous, la pensée de l'éternité, et c'est d'abord une chose à réaffirmer. Il y a un Dieu, et un seul Dieu. Nous sommes connus de Dieu, de notre Créateur. Il y a dans ce texte, quand on le lit, il me semble, aucune peur, mais quelque chose qui rassure, une simplicité à reconnaître. Tout cela me dépasse, mais c'est merveilleux. Je veux dire, Robert, c'est bien, mais tu es en train de parler à des enfants. Si je pouvais parler à des enfants, comme ça. Oui, c'est vrai que pour nous, c'est pas toujours facile d'être aussi simple. C'est pour ça que j'y reviens. Frères et sœurs, notre foi repose sur le fait déjà qu'il y a un Dieu créateur et que nous sommes ses créatures. C'est la première chose, si nous ne reconnaissons pas cela. Et le monde où nous vivons, notre éducation, à peu près quelles que soient les cultures, nous ont orientés dans d'autres sens. Certains, c'est le cas en Occident largement, veulent maintenant éradiquer l'idée qu'il y a un Dieu. D'autres, sur d'autres continents, peut-être davantage, historiquement, on cherche d'autres dieux pour rechercher une puissance et se passer du seul Dieu. Eh bien, nous ne pourrons pas. Il y a un Dieu. La Bible commence par ça, au commencement, Dieu. Et je dis souvent que dès le premier verset, on peut refermer la Bible si on n'est pas d'accord. Sinon, il nous faudra accepter. Et je dis qu'il y a une grande délivrance quand on accepte ce premier terme. Il y a un Dieu créateur et je suis une créature. Ouf, c'est déjà moins lourd à porter. J'ai beaucoup moins de choses à gérer. En tant que créature qu'en tant que créateur. Parce que les équations pour tenir les planètes en l'air, j'ai du mal à les résoudre. Alors ça me repose la tête. Il y a un créateur. Nous avons du mal à rester dans l'esprit de David, qui déclare ces choses et s'en émerveille. Un autre homme de Dieu, Job, a fait la même déclaration que David. Mais il n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Je vous lis dans Job 10, verset 1. « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Et au verset 8, plus loin, il dit pourtant, tout comme David, « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais ? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait ? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage ? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. » Job s'adresse à Dieu. « Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonneras pas mon iniquité. » Un même constat, un cœur qui est troublé, un cœur qui est dans l'amertume. Vous voyez l'œuvre du diable, ça n'arrive pas ça dans nos vies. Ça n'arrive pas ça dans nos vies. Nous aussi, oui, nous pouvons être pris dans nos pensées, nos raisonnements et nous replier sur nous. Et au lieu de nous émerveiller de ce constat qu'il y a un Dieu créateur et que nous sommes ses créatures, nous sommes dans l'amertume. Et nous voulons de nouveau nous cacher. Il me veut du mal. Nous sommes pris par le mensonge que l'ennemi de nos âmes est venu insuffler. Alors que ce matin, nous prononcions avec Paul que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance vraie de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Des choses toutes simples. Là aussi, dans ce spectacle hier, je n'ai pas fait mon message après le spectacle, mais avant, il y avait un petit chant qui disait toutes ces petites pensées qui viennent. Tu es nul. Tu es bon à rien. Alors, je ne vous donne pas une méthode pour chasser ça. Mais il y a un petit chant qui disait que tout ce qui est ce qu'il n'a pas dit, ça dégage. Et tout ce qui n'est pas écrit de lui, ça dégage. Alors c'est au nom de cela, le Seigneur dit, tu es créé une créature merveilleuse. Dieu omniprésent et lumière, deuxième partie. David poursuit l'adoration méditant sur Dieu qui éclaire tout. Ces versets soulignent un peu que quel que soit l'état de notre âme, lorsque Dieu s'est révélé à nous, nous ne pourrons faire comme si cela n'était pas. Frères et sœurs, si David déclare, lui qui n'a pas connu la nouvelle naissance, lui un homme né sous la loi, s'il déclare ces choses, si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà, si je prends les ailes de l'horreur et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Si David dit cela, certes un homme selon le cœur de Dieu, comment nous négligerions-nous un si grand salut, une si merveilleuse révélation que nous sommes créatures de Dieu, aimées de lui. Comment négliger cela? Comment continuer à nous enfuir loin de sa face pour cacher notre honte et nos manquements? Il est lumière, il éclaire tout homme. Je vous en supplie, je nous en supplie, je me mets dedans. Arrêtons de nous cacher. Il sait toutes choses. Et il ne veut pas nous détruire. Frères. frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, ce qui l'unit. Ce qui l'unit, l'Église de Jésus-Christ, c'est que nous sommes des pécheurs rachetés. C'est tout. Ce n'est pas un accord philosophique sur un système de valeurs qui permet de mieux vivre. C'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, je l'ai rappelé ces derniers dimanches. Et c'est que nous en avions besoin. Et que nous avons reconnu un jour que nous en avions besoin. La difficulté, c'est que souvent nous avons reconnu un jour, mais pas toujours. Nous avons reconnu un jour, et puis nous sommes repartis avec nous. Et peut-être des fois, ça nous paraît trop difficile de revenir, parce qu'il nous a montré autre chose depuis. Mes frères et sœurs, ce qu'il a fait à la croix est toujours valable. Il ne pardonne pas une fois. C'est sa colère qui dure un instant, mais sa miséricorde durera toujours. Mais sa miséricorde durera. Mais sa miséricorde durera. Mais sa miséricorde durera. S'il a insisté là-dessus, en rappelant verset par verset le récit de la libération de son peuple d'Égypte et en le caviardant de « sa miséricorde durera toujours », c'est bien parce que nous avons besoin et qu'il savait qu'après nous être mis à la lumière une première fois, nous serions tentés de nous cacher loin de sa face. Mais il vient nous rechercher. Il vient nous rechercher. Nous sommes peut-être enfuis loin de sa face pour cacher notre honte, nos manquements. Nous avions cru, après cette première illumination, avec enthousiasme le servir, je le rappelais dimanche dernier, puis nous avons échoué et nous ne savons plus que faire. Peut-être nous sommes-nous accaparés une partie de la parole de Dieu, l'avons-nous mélangée à notre pensée. Et cela ne marche pas. Et nous ne renonçons pas et nous ne savons plus comment faire. Revenons. Revenons plaider avec l'Éternel, en sachant qu'à un moment, il nous fera reconnaître que c'est lui qui est vrai, que c'est lui qui est la vérité. Paul nous rappelle que Dieu soit tenu pour vrai et tout homme, c'est-à-dire moi, pour menteur. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu, puisqu'il voit tout, j'ai vu ses voies. Une promesse. Je le guérirai. Nous avons cette promesse. Il guérira le rebelle. Ce qui fait souffrir souvent, c'est le temps que ça met. Le temps que nous mettons. C'est un thème qui est récurrent dans la parole de Dieu. En Genèse 4, déjà à Caïn, dans la jalousie de son frère, dont le sacrifice a été agréé, Dieu tend la main. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Pas par une méthode humaine, pas par un effort de volonté, mais parce que nous l'avons chanté ce matin. Il a vaincu, il a fait le nécessaire. Et nous sommes au bénéfice de cela. Encore un qui a du mal à revenir. Ouf. Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Pas très long, le livre de Jonas. Dieu veut l'envoyer. Dieu a des drôles d'idées, des fois. Il envoie des drôles. On a des critères sur ce qu'est le serviteur de Dieu, c'est assez curieux. Il envoie Jonas, d'abord qui ne veut pas, qui s'enfuit aussi. Il ne veut pas obéir. J'en parlerai, ça, je pense, dans un de ces dimanches. Et puis, finalement, c'est un Dieu puissant. Il va l'engloutir quelque temps. Les flots vont passer sur lui. Et à un moment, il va crier. Juste avant d'avaler la dernière gorgée qui allait l'étouffer, il a eu le temps de crier à Dieu. Dieu l'a sorti de là. Est-ce que Dieu a changé ses instructions? Non, il a dit, Jonas, tu vas aller à Ninive.
Et il va aller à Ninive. Et il va prêcher. Il va annoncer l'évangile. Et Ninive va être sauvée. Eh bien, figurez-vous que Jonas n'est pas content. Parce qu'il dit, je savais bien que ça allait avoir raison et qu'ils allaient se convertir. Et moi, du coup, je ressemble à quoi? J'ai annoncé la destruction de Ninive et finalement, tu leur as pardonné. Je savais que tu es Dieu miséricordieux. Et il est malade avec ça, Jonas. Et Dieu lui dit, tout est l'épisode avec le ricin, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Frères et sœurs, David ou Jonas? Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. Frères et sœurs, si ces textes nous sont donnés, c'est parce qu'il y a dans notre cœur, et c'est pour ça que David demandera encore Alf, à être sondé par Dieu, il y a dans notre cœur des choses curieuses. Je vous en parle en connaissance de cause. Je suis des fois désespéré de mon cœur. Moi, je vais vous confesser, des fois, ça m'est arrivé, ça. Enfant, j'avais du mal à me réjouir de ce qui réjouissait les autres et me mettait à part. Bon, je ne prétends pas, c'est tout fini, mais quand même. Parce que c'est ça qu'il nous dit là, Jonas. On n'a pas raison, alors on boude. Dieu a sauvé une ville entière. Dieu veut sauver. Ben peut-être ce ne sera pas par nous. Ce ne sera pas par ton témoignage. Ce ne sera pas par les traités que tu as distribués. Ce ne sera pas par... Mais il fait comme il veut. Il fait comme il veut. A été peut-être un décordage. Tu ne sauras pas la fin de l'histoire. Et alors? Et alors? Est-ce qu'on peut être comme David? Est-ce qu'on peut revenir? Si on n'y est pas, si je vous ai cité ces exemples, ce n'est pas pour accuser. C'est parce que je sais qu'il y a ça dans les cœurs. Parce que je l'ai trouvé des fois dans mon cœur, alors. J'ose dire qu'on est tous de la même nature ici parce que la Bible l'affirme. Alors moi, je donne quelques exemples comme ça, mais si vous en avez d'autres qui minent votre cœur, faites comme David, revenez, et on conclura ensemble. Seigneur, sonde mon cœur, et connais mes pensées, parce que moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à savoir pourquoi c'est si tordu des fois. Mais toi, tu sais. Et Seigneur, j'ouvre mon cœur pour que tu viennes me montrer tout ça. Parce que c'est trop complexe pour moi. Versets 13 à 18. Ah, ça, c'est beau. On va le relire. Hein. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informée vide, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Et alors ce dernier demi-verset merveilleux. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Quelle grâce de pouvoir prononcer et de vivre cela! Frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est cela qu'elle donne. C'est que jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, on pourra dire le matin, que ce soit dans la fournaise, que ce soit dans la joie, dans des moments faciles, je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est extraordinaire, extraordinaire. En relisant ce psaume hier matin, j'étais renouvelé. Le Seigneur m'a rappelé quand il m'a pris. Les premiers jours, je vous l'ai dit des fois ici, j'avais peur que ça parte. Ça ne part pas, frères et sœurs. Mardi soir, Tony nous rappelait en lisant ce texte de Romains 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni les tribulations, ni la vie, ni les puissances, ni les dominations. Rien, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors le matin, je m'éveille et il est là. Et tu es toujours là. Tu es toujours là, mon Créateur. Celui qui a envoyé son Fils pour me sauver, pour me racheter. Celui qui l'a ressuscité comme nous l'avons chanté. Tu es là. Alors oui, il y a des tribulations, il y a des trucs. Tes pensées, je ne comprends rien, Seigneur, des fois. Mais tu es là. Je m'éveille et tu es là. Et ça, c'est son œuvre. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté d'une philosophie, pas de la chair, mais de Dieu. Par le Saint-Esprit qui vient déposer cette vie et qui la fera croître et qui la conduira et qui la sanctifiera. Et c'est lui qui le fera jusqu'au bout. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah Seigneur, merci. Merci de cette vie que tu nous as donnée, de cette vie que tu nous as donnée deux fois, de cette vie que tu as donnée quand tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu es aimé de Dieu. Il t'a voulu. Tu n'es pas une erreur. Les enfants sont partis, mais ceux qui sont là, tu n'es pas une erreur. Dieu t'a désiré là où tu es ce matin. Là où tu es ce matin. Mon garçon là derrière, là. Il t'a désiré. Dieu t'a voulu. Il t'a voulu. Toi, il t'a fait. Tu es unique. Tu as connu déjà à ton jeune âge de grandes souffrances. Mais Dieu, il t'a voulu. Et il ne va pas te laisser là. Il ne va pas te laisser là. Il sait tous les jours qu'ils te sont destinés. Je te dis ce matin, il te donne ta vie pour butin. Tu ne le connais pas encore. Sache qu'il y a un Dieu. Un Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, et il te connaît. Pas pour te condamner, ne te cache pas, réjouis-toi, il t'aime. Alléluia, c'est ça qu'il dit David. David, il est comme un enfant. Est-ce qu'on peut encore être comme un enfant ce matin? Alléluia. Peut-être certains aussi ce matin, tandis que je dis ça, sont dans l'état d'âme de Job que j'ai souligné tout à l'heure. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Tu me poses de nouveaux témoins. Tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serai comme si je n'eusse pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi, que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Peut-être que ce que tu vis ce matin, c'est encore pire que cela. Peut-être que ce qui t'a blessé, qui a abîmé ta vie, l'a été par ceux qui se recommandent de Dieu. Et là, tu n'en peux plus. Je prie ce matin que le Seigneur intervienne pour guérir et éclaire toutes et tous. Si Job, vous savez que Job, il était dans ce combat d'une propre justice. Mais Dieu l'en a délivré. Dieu l'en a livré, pas pour une petite consolette. Dieu l'a délivré en se présentant comme le Dieu créateur. Il a dit, tu veux discuter avec moi, Job, on va discuter. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Sais-tu comment je forme les nuages? Et c'est là ce qui a consolé Job. C'est là ce qui a délivré Job. N'attendons pas moins, frères et sœurs, si tu es dans l'état d'âme de Job. Je prie, Seigneur, ce matin, que plusieurs, Seigneur, aient la révélation de qui tu es, reviennent à leur place de créature merveilleuse, aimée de Dieu, créée par lui. Tu es aimé de Dieu, et celui qui a inspiré David, il l'a conduit dans l'adoration, le veut pour toi aussi, aujourd'hui. Aujourd'hui. On va voir aussi cette dernière partie du psaume 139. je ne peux pas. On pourrait dire, oh ben là, on va peut-être, parce que maintenant on est dans le Nouveau Testament, oh, c'est un passage difficile, oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? On va leur lire. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ces deux derniers versets, nous les verrons tout à l'heure, mais cette espèce d'imprécation de David. Il faut savoir que David écrit ce psaume d'adoration au milieu de tribulations terribles. Il en a eu un paquet. Et soyons clairs, le texte, il faut le prendre d'abord comme il est écrit, il demande la destruction de ses ennemis. David est un homme né sous la loi. Je vous rappelle que dans la loi, une des sanctions principales, c'est quand même la mort. La sanction du péché, c'est la mort. Le sacrifice lévitique permet de régler quelques fautes, mais la mort, c'est la mort. Alors, je vais vous surprendre, à la fois, ce texte demeure, et cela ne peut plus être, pour tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Ce qui reste vrai dans ce texte, c'est que la connaissance de Dieu, la révélation du Dieu créateur, Père du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cette révélation de l'amour si grand et si profond, s'accompagne de la révélation du mal. Tant que nous ne connaissons pas Dieu, que nous n'avons pas la révélation de Dieu le Père par Jésus-Christ notre Sauveur, nous n'avons pas une vraie connaissance du mal. Nous avons notre opinion sur ce qui est bien et ce qui est méchant, mais la révélation nous montre qu'il y a un ennemi de nos âmes et nous montre le mal comme Dieu veut que nous voyons le mal. C'est même par la conviction que cette méchanceté habite en nous et par la reconnaissance de ce que nous sommes naturellement que nous saisissons le besoin d'en être délivrés et sauvés. Et c'est ainsi que nous sommes amenés à reconnaître notre absolu besoin d'être pardonnés et que, la méchanceté de nos cœurs, à la fois héritée de nos pères, et la nôtre, celle qui nous est spécifique, a besoin d'être traitée. Donc c'est un point important, le mal, dans le monde religieux, non, mal, on est tous gentils, etc. Je rappelle que la révélation de Jésus-Christ, la révélation de qui est Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde, nous amène en même temps la révélation, c'est concomitant en fait, cette simultanée du mal. Et j'y reviendrai, il y a ce combat que David nous propose à mener. Ce qui n'est pas vrai, dans ce que dit David, et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu déclare, il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de vie. Alors nous aussi, nous pouvons déclarer, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sachant que nous n'avons pas à haïr les personnes, on est bien d'accord, ni celles qui ne connaissent pas Dieu, ni nos frères et sœurs chez qui nous voyons des difficultés, des problèmes, mais nous avons à haïr d'une parfaite haine, les dominations, les autorités qui agissent, manipulent, pilotent la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, le Dieu de David, ou qui en ont reçu une image déformée. Et la question que je voudrais qu'on se pose ce matin, c'est que, est-ce que finalement nous acceptons la souffrance qui est liée à cette connaissance du mal? Est-ce que ce que nous voyons depuis que nous avons eu la révélation de qui est Dieu, de sa sainteté, de sa bonté, de sa miséricorde, du plan du salut qui nous a été révélé dans nos cœurs, est-ce que la souffrance qui est partout dans ce monde, le péché qui est partout dans ce monde, est-ce que cela nous fait souffrir? Et si cela nous fait souffrir, est-ce que nous supportons cette souffrance ou est-ce que nous essayons d'y échapper? Est-ce que vous me suivez là? Parce que c'est un fait. Dès qu'on a la révélation de qui est Dieu, du salut et de l'immense joie d'être sauvé, on a envie de la partager. Et vous avez constaté qu'il ne suffit pas forcément de partager avec enthousiasme le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, de dire c'est merveilleux, moi je l'ai fait, je le fais encore. Mais venez, c'est pas possible. Vous n'étiez pas au courant, moi non plus, mais maintenant je sais, donc venez, venez, venez. Force est de constater que c'est pas toujours aussi simple. Les gens ne viennent pas tout de suite, comme ça, malgré un beau témoignage. Et nous avons une souffrance qui vient. Dis Seigneur, vois ces hommes, ces femmes, vois mes frères, mes sœurs selon la chair, vois mes enfants selon la chair, vois mes parents selon la chair, qui s'enfoncent dans des choses qui les mènent à beaucoup de souffrances. On comprend pourquoi il y a des souffrances qui sont arrivées dans des vies, on comprend des drames, on comprend l'effet de l'occultisme dans les vies, on comprend ces choses, on le sait parce que Dieu nous le révèle, et cela est une souffrance. Est-ce que nous supportons cette souffrance? Parce que des fois ça peut durer longtemps. Il y a là deux écueils pour le chrétien. Soit passer outre et dire finalement, je n'ai pas à juger, puis après tout, je ne suis pas parfait moi non plus, alors tolérons. Et là, je vais baisser la garde et tomber dans l'apitoiement humain, allant jusqu'à m'associer à ce que le monde fait pour ne pas contrarier personne. Et puis, il souffre déjà, je ne vais pas lui dire la vérité en plus. Ça, c'est le premier écueil. C'est un écueil pernicieux. Parce qu'il vient doucement, doucement, doucement. Et ce que l'on ne voit pas tout de suite, c'est que là, on part là, humainement, sentimentalement, on se sent un peu mieux pour un temps. Mais, cela amène un endormissement spirituel. Cela nous amène, ramène à accepter des idoles, des choses un peu moyennes. Au nom de tout est permis. Oui, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Premier écueil. Le deuxième écueil, devant ce mal, je vais leur dire leurs quatre vérités. Il n'y a pas besoin d'en dire quatre, il y en a une qui a donné avec douceur. Et là, je vais me faire juge et éradiquer moi-même ce mal que je vois parce que je ne supporte plus de le voir, parce que ça me fait souffrir et que j'en ai marre de souffrir. Eh bien, alors, c'est ma chair qui parle. Et je vais éradiquer le mal à ma façon en faisant des dégâts. Le Seigneur nous invite à emprunter le chemin du combat et du bon combat qui se trouve être ce combat spirituel avec toutes les armes présentées dans Éphésiens 6. Ce combat, je ne vais pas développer les armes d'Éphésiens 6, juste rappeler quand même que la première, c'est la vérité. Le linge de corps du combattant spirituel. Ce qui est le plus intime, mais qui nous touche de près, sans lequel on peut revêtir tout ce qu'on veut, le premier linge de corps, c'est la vérité, pour ceinture, celle qui donne la force. Ce combat, c'est le travail du chrétien, qui doit déjà être dans une bonne position, celle que nous montre David à travers ce psaume. Une reconnaissance claire et nette, de la souveraineté de Dieu dans toutes les situations. Si on commence à bricoler avec ça, on ne va pas s'en sortir. Dans toutes les situations. Je rappelle, mardi, nous soulignons, rien
ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni les autorités, ni les dominations, etc. Dieu est au contrôle. Le Dieu omniscient des versets 1 à 6, omnipotent, omniprésent des versets, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il a promis aussi qu'il n'enverrait pas d'épreuve au-delà de nos forces. La sœur, du couple où je me suis converti, disait, cuisinez bien. Et dit, c'est lui qui raye le potentiomètre de la plaque. Ça ne chauffe pas trop. Mais il est vrai que l'Écriture nous dit aussi que parfois, Jérémie rappelle que Dieu est obligé de chauffer fort. Il y a des chaudrons qu'il a dû chauffer à blanc pour que ça décolle un peu. Mes frères et sœurs, on est sûrs, il faut qu'on soit sûrs de cela. Sinon, on n'est pas dans la bonne position pour combattre. Si on commence avant de combattre à contester la position de celui par qui nous avons la force de combattre et qui est notre chef, on ne va pas y arriver. Une reconnaissance claire et nette de la souveraineté de Dieu dans toutes les situations. Une assurance que nous sommes aimés de lui, ardemment désirés, que nous sommes des créatures divines, d'essence divine, mais pas Dieu. Alors, avant d'aller au combat, comme David, demandons d'être sondés et connus de lui. Reconnaissons que, bien que nous sachions cela, qu'il nous sonde et qu'il nous connaît, nous nous comportons comme si ce n'était pas le cas des fois. Cessons de fuir. Chacun sait que Dieu sait tout. Et pourtant, est-ce que des fois, on ne continue pas de se cacher comme si, à qui veut-on cacher ? Oui. L'Église, on l'a dit, elle est en marche, le Seigneur s'en occupe. Alors, il ne nous demande pas d'aller nous étaler tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos hontes, tous nos péchés à tout le monde, surtout pas. Il est même, des fois, je crois que ce qui concerne l'impudicité, n'ajoutons pas le péché au péché, en étalant ce que nous étions. Paul dit, nous en rougissons maintenant. Il y a des fois, la honte effraie bien d'être un peu là, pas pour demeurer, mais quand même pour dire, mais reconnaître ce qu'on a fait. Glorifions-nous du salut apporté par Jésus-Christ, mais pas de nos ébauches, de nos... Bon, ben voilà, c'est derrière, mais ce n'est pas le sujet de se glorifier. Seigneur, je crois que si David a pu connaître cette intimité avec Dieu, cette simplicité allant à lui, à la fois... en l'adorant, oui, lui seul est digne d'être adoré. Ça veut dire que même dans l'usage de ce mot, lui seul est digne d'être adoré. Arrêtons de tout adorer. Le dernier cuisinier à la mode, le dernier je ne sais pas quoi, le dernier club de foot, le dernier vedette. J'adore. Non. 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 Lui seul. Lui seul. Je crois que si David a pu connaître cette intimité avec Dieu, à combien plus forte raison pouvons-nous connaître cette intimité ? Pour peu, nous apprenions à adorer le Créateur, le Sauveur, le Seigneur, celui qui est lumière. Et puis, puisqu'il est lumière, puisqu'on sait qu'il sait tout, lorsqu'il nous montre, ne nous détournons pas. Ayons le courage. Et frères et sœurs, je pense qu'il y a une grande victoire à saisir. Au niveau de notre vie, là, concrète, là, qui démarre maintenant, là, sur cette grande lumière, sur cette marche à la lumière. Alors, je voudrais que ce matin, on puisse, parce que je crois qu'il y a une grande délivrance, une grande liberté, une grande réconciliation dans l'adoration. Et je vais demander à l'équipe de louanges, je n'avais pas vu qu'ils avaient prévu ce chant, et donc je voudrais qu'on le reprenne. Je vais demander ce matin, le reprenne, et puis en fait, ils l'avaient prévu, c'est adorons l'agneau. Simplement, je vais prier, puis on va simplement se remettre devant lui. Vous savez, je ne fais pas de conseils pour l'ostéopathie, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ça, mais l'ostéopathe, normalement, celui qui fait son travail et qui ne s'occupe pas d'autre chose, il remet les affaires en place. Et je pense que dans l'adoration ce matin, en disant « lui seul est digne d'être adoré », simplement, on se remet à notre place. On se dit « Seigneur, on veut repartir ». Simplement, tu es Dieu. Tu es Dieu, je suis ta créature, que tu aimes. Je te remercie parce que je sais que je suis désiré de toi. Puis en plus, tu m'as révélé que j'étais perdu, mais tu m'as sauvé. Tu es vivant. Est-ce que tout simplement, on va pouvoir chanter ça ? Seigneur, je te remercie ce matin pour la joie et la simplicité, Seigneur. Tu as déposé dans mon cœur hier matin face à ce psaume. Et Seigneur, je présentais avec mes frères et sœurs ce matin qu'on soit vraiment ensemble. Chacun, on sait qu'on... C'est toi qui nous as créés. Tu nous as voulu. Tu as connu pour chacun le jour de notre naissance. Pour ceux qui vont venir, pour les enfants déjà conçus, tu sais déjà toutes choses. Alors Seigneur, là, tous ensemble ce matin, nous mettons devant toi et nous reconnaissons que tu es Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Tu es le Dieu de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ, ton Fils, vrai homme, sans péché, ton Fils bien-aimé, que tu as envoyé au milieu de nous pour régler ce problème du péché, celui que tu as ressuscité. Nous avons besoin de toi, pas une fois, mais jour après jour. Nous confessons cela ce matin. Amen.